Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Nicoletta, sa vie est un manège grâce à la chanson. Mais où a-t-elle débuté ? Eh bien, dans un club de jazz à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Et où Ray Charles a-t-il découvert Il est mort le soleil ? À Montréal, quand Nicoletta en personne lui a offert son disque en français. À l'automne, elle va fêter au Lido ses 50 ans de carrière, ses souvenirs ainsi que beaucoup d'autres, tout de suite dans ses clés d'une vie sur Sud Radio. Bonjour Nicoletta.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Eh bien écoutez, on est ravis de vous retrouver parce qu'en plus, il y a une série de concerts à travers la France et au Lido, on va en reparler. Mais le principe de l'émission, c'est d'évoquer votre carrière à travers des dates clés.
Bien sûr.
Et la première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement parce que vous n'étiez pas né, mais elle est importante dans votre vie. C'est le 4 mai 1938, la sortie de ce film.
Un jour.
Je crois que Blanche-Neige et les Sept Nains, Nicoletta, est le premier film que vous avez vu.
Oui, c'était le comité d'entreprise de ma chère grand-mère qui travaillait comme ouvrière d'usine chez Bolloré Père et qui m'avait emmenée. J'avais 5-6 ans et j'étais ravie. C'était tellement joli, ces oiseaux autour de Blanche-Neige et la joliesse de ses petits cils et tous ces petits nains qui s'occupaient d'elle, qui rentraient du boulot. Ah, c'était bien de voir un film, c'était une magie totale.
Et c'est vraiment la première fois avec ce film qu'on a inventé un principe qui est devenu d'actualité partout, c'est les droits dérivés. C'est Walt Disney qui l'a inventé avec ce film, avec les personnages.
C'est un sacré bonhomme celui-là, hein.
Exactement.
Bravo.
Alors, pour revenir au passé, vous avez grandi à Vongy, au-dessus de Thonon, les bains, et c'est votre grand-mère qui vous a élevé, Claudia, je crois, Nicoletta.
Oui, elle s'appelle Claudia. Et Madame Claudia Grisoni, Mademoiselle Claudia Cordier. Voilà.
Il y avait le grand-père aussi, crois, César.
César.
Qui était un maçon, qui buvait un petit peu, mais c'était.
C'était dès qu'il a eu un gros choc, ce monsieur. Ce sont des parents qui, en 1944, j'avais 5 mois, ont perdu 2 de leurs fils tués par les Allemands. Un d'un éclat d'obus dans le Vercors, qui avait 19 ans, et l'autre de 17 ans était descendu par un milicien sur la place à Thonon-les-Bains, en compagnie de Marie Reinhardt, la nièce de Django, parce que ma famille planquer Django et ses roulottes sous leur pommier. Alors évidemment, c'était mal vu. Hein. Et on a tué ses 2 enfants. Il y a encore la plaque commémorative, d'ailleurs, à Thonon. Quand je passe devant, ça me touche beaucoup. Et ma pauvre grand-mère, chaque mois d'août, elle n'était pas bien du tout. Et moi, je suis en avril, ils sont morts en août. Et mon grand-père, petit à petit, n'en pouvait plus. Par chagrin, s'est mis à boire un peu. En plus, il est devenu handicapé. Il a fait la Syrie et la Libye en 14-18. Donc, il prenait de la novaquine. Il avait attrapé le palu. Il avait la quinine. Il avait des grosses fièvres, il avait des gros problèmes avec cette maladie dont on ne guérit pas. Et on l'avait exempté de travailler entre perte de travail, c'est un maçon très émérite qui aimait son métier, la perte de ses enfants. Il allait jouer à la pelote au café du village et revenait un petit peu, comme dirait ma grand-mère, avec la charmante. Voilà.
Alors, à cette époque, c'est l'école. Alors, l'école, vous êtes à la fois une bonne élève.
Oui, je suis une bonne élève. Oui,
mais un peu école buissonnière quand même, Nicoletta.
Non, plus tard.
Oui.
Au début, à l'ado, l'adolescente. Non, jusqu'à la 4e. J'étais impeccable.
Ouais, mais très bonne en littérature.
Ça, j'ai toujours aimé lire.
En dessin.
Et ma petite grand-mère, dès l'école primaire, m'inscrivait aux bibliothèques. Donc, je pouvais lire 1 ou 2 livres par semaine. Et c'est une habitude que j'ai gardée.
Voilà. Mais ensuite, effectivement, à l'adolescence, ça s'est un peu gâché.
Ouais.
Vous avez même, je crois, dans un collège, été jugé irrécupérable.
Non, ça, c'est chez les religieuses. Ouais. Bon, les religieuses, elles m'ont dit que je fais rire dans un cabaret. Elles ont eu raison. Elles étaient vraiment prémonitoires.
C'est-à-dire que vous avez fait plusieurs collèges.
Ouais, j'ai fait le collège Thonon, le collège d'Annecy et le collège d'Évian. Enfin, ceux du territoire de la Haute-Savoie.
Au moins, vous avez tout vu comme ça. Parce que vous n'avez pas envie, ça ne vous intéressait pas.
Non, arrivé en 4e, j'ai eu des difficultés pour continuer mes devoirs. Personne ne pouvait m'aider. J'étais assez seule. Mon grand-père était pénible, parce que quand je rentrais, il avait déjà la charmante bien achevée, enfin, bien imposée, il radotait, il rigolait tout seul. C'était infernal. Donc, j'ai un peu souffert de solitude. Et quand on a 14 ans, 15 ans, on a des problèmes quand même d'évasion dans la tête. Hein. Et c'est vrai que j'ai commencé à suivre quelques copains qui avaient des Vespa, qui avaient la banane. J'ai découvert Elvis Presley, le rock'n'roll. C'était beaucoup plus rigolo que d'aller à l'école. Et c'est vrai que, malheureusement, le collège d'Évian, le dernier que j'ai fait, écoutez-moi, c'est en 3e, devinez quoi, il est au bord de l'eau. Alors j'étais ravie, je voyais les mouettes, les cygnes, les oiseaux, je voyais la Suisse en face, c'était magnifique. Toutes ces lumières sur le Léman, qui est un lac magique, ces bateaux à vapeur qui passaient. Ça, ça donne envie de rêver et de partir. Voilà ce qui m'est arrivé.
Alors vous avez quand même eu de bonnes notes au château de Brécourt, puisque d'après mes renseignements, vous avez eu au tableau d'honneur deux places pour assister à l'opéra, un spectacle d'opéra avec Jacques Chazot, Nicolas.
Je voulais aller à l'opéra de Paris, parce que j'y avais jamais mis les pieds. J'étais donc dans un internat au château de Brécourt en Seine-et-Oise, à côté de Nesle-la-Vallée, ce qui était formidable. On était tous dans une maison pilote. On m'avait fait faire des tests de QI. Il paraît que j'ai un bon QI. Et on était toutes choisies sur le volet. Bon, j'ai fait un an en cours accéléré de sténodactylo. Je m'en suis jamais servi. Et puis, bon, et c'est pas ce que je voulais être. Et puis, quand même, on m'a émancipée à 18 ans. Ma grand-mère m'a émancipée de mon juge de tutelle. Et je suis revenue à la maison. J'ai pas trouvé de boulot, j'ai fait que du petit boulot, mais pour revenir à votre prix, l'opéra, il n'y a plus de place. On m'a dit, mais il y a l'opéra Garnier, il y a l'opéra Favart, c'est-à-dire l'opéra comique, où il y a monsieur Jacques Chazot qui danse avec Ino Lemaert, les Valses de Strauss. J'ai dit, bon, ben, allons-y pour les Valses de Strauss. Donc, on m'a emmené voir les Valses de Strauss, c'était charmant. Il y avait surtout, en première partie, un beau danseur torse nu qui s'appelait Peter Van Dyck, qui était magnifique sur ses pointes. Oh, il était joli. Mais, quelques années plus tard, je rencontre Jacques Chazot chez Castel. Et on est devenu copains tout de suite parce que je lui dis, vous avez été mon premier prix d'excellence. J'avais eu 16 de moyenne. On avait essayé de me faire faire une petite sortie. Il était tout fier. Oh, vraiment, vraiment. Et puis on est devenu copains. C'était un homme délicieux.
Oui, qui rigolait beaucoup. Et son fan numéro un, c'était François Mauriac qui disait, je suis le père de Jacques Chazot.
Oh, c'est chou.
Alors, il se trouve aussi qu'à cette époque, bon, la chanson vous passionne depuis toujours. Je crois qu'enfant, vous chantiez dans une grange sur des chars à foin. Nicolas.
Ah oui, mais c'était la grange de ma grand-mère, au village. Il y avait le poulailler, il y avait la grange, on mettait le foin, etc. Parce que c'est pas, on avait des vaches encore. Puis après, ils ont arrêté, elle a gardé les terres, mais on n'avait plus d'animaux solides. Hein. On n'avait que des poules et des lapins. Et ce petit char à foin, il me servait de très tôt pour faire mes queues musicales de 8 ans à 10 ans. Alors je piquais les rideaux de la grand-mère, les talons de la tata, le rouge à lèvres, on se déguisait, on jouait aux princesses et aux comtesses. Et quand j'avais plus d'idées pour les dialogues, on tombait dans les pommes et je réclamais les selles.
Et puis, il y a une chanson quand même où votre grand-mère Claudia apparaît en filigrane. Une chanson qu'au départ, vous ne voulez pas chanter.
Oui. Mais je ne parle pas d'elle. Non, c'est pour ça que je ne voulais pas la chanter. Ouais. Le texte, je voulais qu'on le change. Je ne parle pas de ma grand-mère. Je parle de ma mère. J'ai perdu ma mère, malheureusement, je n'étais pas là. J'étais déjà montée à Paris et j'ai appris ça par un télégramme. J'ai été violemment heurtée. J'ai eu une souffrance que je n'ai jamais pu ressentir, et heureusement, parce que c'était très douloureux. Pour oublier cette souffrance et le choc que ça m'a fait de lire son décès, je me suis tapé la tête contre le mur pour ne plus avoir mal. Et évidemment, j'ai eu du mal à enregistrer cette chanson. Mais comme m'a dit Monsieur Mission, mon producteur, on change pas les métaphores de cette chanson.
Et cette chanson a été un succès, la pochette bleue est mythique. Et je crois même qu'un 14 juillet, vous avez entendu quelqu'un chanter cette chanson dans la rue, Nicoletta. C'est-à-dire que ça vous a marqué, vous étiez un 14 juillet, c'était étonnant.
On entend souvent des chansons, des gens qui passent à vélo, qui sifflent, et tu es dans ta chambre, et sous ta fenêtre, il passe des gens qui fredonnent une de tes chansons. C'est très touchant, ça.
Et puis il y a même, je crois que beaucoup d'enfants appellent leur grand-mère mamie à cause de cette chanson.
Oui, on disait mémé, on dit toujours mémé, je trouve que c'est un bon terme populaire, mémé. Mais c'est vrai que mamie, c'est l'année 70 qui a emmené ça.
Et puis, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, notamment des petits métiers. Et à Cannes, vous avez été portraitrice parce que vous auriez pu faire les Beaux-Arts.
Oui, je ne pouvais pas faire les Beaux-Arts, je n'avais pas le niveau du bac. Mais j'étais à l'école textile à Lyon, après Brécourt. Oui. J'ai fait quelques mois, presque une année scolaire à l'école des ingénieurs textiles dans le circuit dessinateur-compositeur en soirée. J'ai appris à faire des compositions pour les façonner et les imprimer.
Oui, ça ne vous a pas beaucoup servi ensuite. Mais
j'ai fait les cours du soir des Beaux-Arts une fois par semaine en Académie du Nu, comme Gainsbourg.
Voilà. Et à Cannes, vous avez donc gagné votre vie.
J'ai dessiné sur les trottoirs,
Et vous avez rencontré quelqu'un qui est devenu un ami, qui était Villard.
Hervé Villard, qui passait des vacances. On entendait la jolie voix tous les jours sur toutes les radios. On a fait la fête ensemble. On avait 19 ans, on était des gamins insensés. On aimait la fête, on aimait les copains. Et puis à l'époque, on partageait tout. on partait. Moi, je faisais 10 francs, 15 francs, je payais à manger à la copine et vice-versa. Il n'y avait pas... Je crois que les jeunes aujourd'hui ont moins les moyens. C'est beaucoup plus difficile. Nous, c'était le début de l'âge d'or. Et moi, on était des petits beatniks. C'était juste avant les hippies. Mais on s'entraidait vraiment. On couchait sur les matelas des plages. On se débrouillait, quoi.
Et vous avez continué à bien vous débrouiller. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 26 mars 1967. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicoletta.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Nicoletta, 50 ans de carrière, une tournée et le Lido, on en parlera tout à l'heure. Mais le 26 mars 1967, ça vous dit peut-être rien, c'est une émission de télévision qui s'appelle Main dans la main, sur le thème de la jeune fille. Et pour la première fois, vous êtes à la télévision avec cette chanson.
Combien d'amour pour oublier.
Belle chanson.
Votre première télé, ouais. Vous en souvenez?
Pas vraiment. Je vous assure que pas vraiment. Mais la chanson, oui, je m'en souviens. C'est Lino Ferrat qui me l'a confiée, puisque j'ai été découverte et amenée chez Barclay par un de ses musiciens.
Richard Bennett. D'ailleurs, ouais. Vous avez été auditionné par lui et vous avez attendu le contrat pendant 6 mois. Et votre grand-mère a dit c'est pas sûr qu'il vienne.
Oui, non, c'est pas ça. Elle m'a dit, écoute, laisse tomber, parce que c'est toute d'utopie, tout ça. Tu ferais mieux de travailler, ma fille. Je serais pas là tous les jours pour venir t'aider. Et parce que ma mémé, quand elle m'écrivait, elle me mettait un billet de 100 francs, plié dans du papier de soie, dans sa lettre. Mais 100 francs, je faisais plus de 8 jours avec, à l'époque. C'était énorme pour elle.
Il y a quelqu'un d'autre qui vous repère au bus Palladium, c'est Léo Missire. Il vous dit, il faudrait venir chez Barclay. Et vous dites, j'y suis déjà.
Ben, c'est-à-dire que oui, j'avais ce contrat d'option de 6 mois, je voyais rien venir. Et il me dit, oh là là, il y a des années, je cherche une fille comme vous, il me prend par la main, il me tire de scène, je faisais des chœurs derrière un chanteur anglais qui venait, Arthur Brown. Et il me donne sa carte. Je dis, mais je vous connais, vous êtes écrit sur quel contrat? Ben oui, j'ai un contrat donné par Richard Bennett, mais j'ai pas de nouvelles. Mais on vous cherche partout, qui me fait. Et c'est vrai que j'avais déménagé à l'époque, parce qu'on habitait des petits hôtels de Saint-Germain-des-Prés, de temps en temps, on partait, parce qu'on a du mal à payer nos notes.
Hein. Oui. Et puis, il y avait une grève des musiciens, je crois, qui avait empêché l'enregistrement.
Ah, ça, c'est après, quand j'ai fait mon premier album. Ouais. Mais c'était difficile.
Alors, finalement, si tout ça est arrivé, c'est parce qu'un jour, vous avez dit, je tente ma chance à Paris, et ça a été quelques galères, Nicoletta.
Oui, non, je suis montée à Paris. Oui, j'ai eu des galères, mais j'ai eu de la chance aussi, parce que j'ai été hébergée par des copains. Je me souviens, je suis restée 3-4 heures au Flore. Je me suis fait arrêter au Flore en stop. Moi, je venais pas à Paris, je venais à Saint-Germain-des-Prés. C'était la ville phare, c'était les quartiers phares de l'époque où il y avait les artistes, les intellectuels, les créatifs, et c'était... Il y avait de l'âme, c'était Saint-Germain, c'était le jazz aussi, c'était Boris Vian, c'était... Il y avait encore toute cette aura qui était là, aux années 65. Et donc, je suis descendu à Saint-Germain et je me disais, j'ai 3-4 téléphones dans ma poche, faut pas que je me trompe. Faut que j'appelle les bons copains parisiens.
C'était le 5 février 64, je crois.
Exactement.
Et donc, vous avez commencé à travailler, à faire des tas de petits boulots. Je crois que vous avez été vestiaire.
Oui, j'ai fait vestiaire. J'ai servi des pizzas aussi. J'ai fait vestiaire. J'ai fait de vestiaire. Je suis passé DJ au King's Club parce que le disque repartait.
On appelait ça disquaire et pas DJ à l'époque.
Ah ben évidemment, on avait 2 platines Torrens. On prenait les haut-parleurs. On faisait marier les sillons entre eux pour pas qu'il y ait d'interruption pour l'ambiance sur le dance floor. Et il y avait les slows à l'époque quand même. Il y avait les 3-4 slows d'amour où les jeunes pouvaient flirter et se déclarer leur flamme. Aujourd'hui, ils sautent en l'air comme des poissons. Il n'y a plus de slows.
Il y avait les discothèques aussi de la rue Dufour, célèbre, chantée par Juliette Gréco. Il y avait le Bistingo chez Carlos.
Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé au Bistingo. C'était drôle.
Et puis surtout, vous étiez sur la piste en train de chanter en permanence. On vous appelait la folle, je crois, Nicolette.
Non, ça je m'en souviens pas, non.
Ah,
non.
Si. Ah, j'ai les preuves, j'ai trouvé des articles.
Ah, vous l'avez dit, ouais. Ah, c'est rigolo. Parce que je hurlais sur les disques, je faisais mon contrude, ça les faisait rigoler. Et quoi, j'étais un peu cinglé. C'est vrai que quand j'ai dit que j'allais enregistrer, que j'allais chanter, mes copains du coin disaient, elle est folle, elle est complètement mythomane, elle dit qu'elle va faire un disque, tu parles. C'était, à l'époque, c'était pas facile, donc quand j'ai dit que j'avais signé chez Barclay, j'ai été mytho.
Voilà. Et on vous appelait Nicole à l'époque, et je crois que c'est un chanteur suédois, ouais. Bob Askoff,
qui était beau comme un cœur.
Voilà, qui vous appelait Nicoletta.
Oui, la petite Nicole, tout
comme
à
ça.
Fait. Oui.
Et ce chanteur, finalement, il a joué dans plusieurs films. Il a interprété la chanson du film Bon Baiser de Russie.
Tout à fait, de James Bond.
Voilà, il a fini sa vie comme peintre en Suède.
Tout à fait. Je l'ai appelé quand je suis allée à Stockholm. Et j'ai eu des rapports avec lui jusqu'au bout. Il est décédé maintenant. Ses amis m'ont dit qu'il était mort. Ils m'ont averti depuis la Suède. Et c'est un bon peintre. Il avait beaucoup de talent. Et Bob m'a beaucoup encouragé à chanter. Il aimait bien ma voix. Il disait, tu dois chanter, Nicole. Tu dois chanter.
Et Barclay le pensait aussi. Et la première fois que vous l'avez rencontré, il a sorti une pince à billets de sa poche et vous a donné 500 francs.
Donc, ça, c'est quand je suis venu signer mon grand contrat. C'était 8 heures du soir. Je n'avais pas l'argent. J'ai dit, là, comment je vais rentrer? Moi, j'ai pas l'argent. Et il m'a donné 500 francs. Mais comme c'était un homme d'affaires, il ne les a pas donnés. L'année d'après, quand j'ai reçu mes premières royalties, il les a retenus sur mon compte. Sur mon compte de rendement des disques que j'avais vendus. J'étais morte de rire. Je suis là, c'est bien l'Auvergnat.
Et puis, on a découvert aussi votre voix au cinéma grâce à cette chanson.
Ah oui, je faisais partie des actualités.
Voilà, c'est-à-dire que dans les actualités du cinéma, ouais. On voit Nicoletta, toute jeune, débutante, ouais. Chanter L'homme à la moto de Piaf.
Mon premier 40, j'adorais Piaf et je voulais montrer. À l'époque, il y avait Mireille Mathieu et il y avait Georgette Lemaire, qui étaient des élèves de Piaf, entre guillemets. Elles avaient été guidées par cette voix envoûtante que Edith avait. Et c'était une tradition, Edith Piaf. C'était le summum de l'interprète féminine en France. Une femme extraordinaire, avec un foyer d'interprétation fascinant. Et j'aimais bien cette chanson. Et j'ai voulu l'enregistrer, il me l'a fait pour me faire plaisir, Monsieur Messire, un peu rock'n'roll, un peu, beaucoup plus dans l'idée de l'époque, du motard, etc., et montrer qu'on pouvait chanter du Piaf sans l'imiter.
Et d'ailleurs, cette chanson, c'était un des premiers rock américains, quand Piaf l'a repéré.
Oui, tout à fait.
Elle l'a fait venir, Jean-André Jacques, à New York, pour passer un bon moment avec lui, je dirais.
Il a fait le texte,
il est reparti en France, il a été viré assez vite, mais il a fait une fortune avec cette chanson. Alors, c'était l'époque où on faisait la fête dans Paris, et dès que vous avez eu du succès, vous avez été un peu partout, et je crois qu'un des grands souvenirs de votre grand-mère, c'est l'Alcazar de Paris, avec la mère de Charles Trenet.
Oui, j'emmenais quand elle venait à Paris, c'était coiffeur, je lui achetais une nouvelle robe, je la faisais belle, et on allait dans les cabarets. Alors on a fait l'Alcazar, bien sûr, plusieurs fois, même chez Castel, hein, l'emmenais. Un jour, il y a une fille qui me dit, oh, dis donc, c'est marrant, il y avait une vieille dame chez Castel, je dis, mais écoute, figure-toi que c'était ma grand-mère.
mais c'est vrai que c'était...
Et je l'ai emmenée, non, c'est au Don Camillo.
Oui, exactement.
Charles, et j'étais très copine avec Charles, qui m'aimait beaucoup, qui m'estimait beaucoup, et il y avait sa maman qui était toute petite. Il avait une maman toute menue, toute frêle, mignonne comme tout, et ma grand-mère s'est retrouvée à table avec Charles et Marie-Louise, et elle était heureuse parce que c'est le premier chanteur qu'elle a vu sur scène après la Libération, sur la place de la Mairie à Thonon-les-Bains. Donc elle était fière de rencontrer Charles Trenet et de pouvoir dîner avec lui, avec la maman. C'était très joli, un beau moment.
Oui, et leur rapport d'ailleurs entre Charles Trenet et sa mère était assez curieux. Un jour, sa mère dit à Charles, tu es un monstre, et lui répond, je suis ton fils.
Aïe, 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 oui. Elle ne m'étonne pas de lui.
Alors, c'était la fête permanente à Paris. Moi, je me souviens de soirées chez Thierry Leluron. Je crois même qu'un soir, on s'est retrouvés chez Thierry Leluron et on l'a couché pendant que les invités...
Mais évidemment, tout le monde... Écoutez, moi j'en avais marre, il nourrissait tout le monde. Hein. Tout le monde venait chez lui, c'était boulevard Saint-Germain, hein, m'en souviens. Ouais. Il avait un concert. J'ai dit, allez, maintenant, tout le monde dort. Allez, maintenant, toi, coucher. Alors, je l'ai mis dodo. Moi, parce que je l'adorais, Thierry, c'était mon petit frère. Si tu te couches, t'as un concert demain, faut que tu sois en forme. T'es 4h du matin quand même, rappelez-vous. Et il avait ce petit lait à baldaquin, vous vous souvenez? Alors, oh, ma Nicole, on lui reste un peu encore. Oui. Je l'ai bordé comme un enfant.
Et c'est vrai que c'était une époque particulière où la fête était possible, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, Nicole.
C'était l'âge d'or, on avait les moyens de faire la fête, et cette espèce d'insouciance de la jeunesse qui, tout d'un coup, avait beaucoup d'argent dans les mains. On travaillait beaucoup. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait 200 concerts par an. Thierry, pareil, on gagnait beaucoup d'argent, on payait beaucoup d'impôts, on gagnait bien notre vie. Donc, comme on n'avait pas de famille, quand même, pas d'enfants élevés, comme on était joyeux et libre, on est la première jeunesse à avoir gagné de l'argent si facilement. Donc, on le jetait un peu par les fenêtres. Hein. Mais moi, j'en ai fait profiter beaucoup, mes copains, et Thierry aussi. Combien de fois, Thierry, on allait au restaurant, on était 12, 15. Bon, j'ai dit, alors, comment on fait? On partage, Anna. Et le barman dit, non, c'est fait. Comment c'est fait? C'était Thierry qui s'est élevé, qui avait payé pour tout le monde. Il était comme ça, Thierry.
Voilà. Et vous êtes comme ça. Et puis, ça a continué. On va en parler dans quelques instants avec une date plus récente, le 20 octobre 2001. À tout de suite sur Sud Radio, avec Nicoletta. Sud Radio, Les Clés d'une Vie, mon invité Nicoletta, 4 novembre 2021, et puis le 7 novembre aussi, deux concerts exceptionnels au Lido pour fêter vos 50 ans de carrière. Le Lido, c'est quand même un lieu inattendu pour chanter, Nicoletta.
Si, le Lido a fait souvent des concerts, mais avait arrêté depuis une trentaine d'années. Et là, vu les circonstances, les gens changent un peu de formule, et quand ils nous ont appelés au bureau, eh bien, on a trouvé que c'était une idée originale. Moi, j'ai vu quand même Chérie Basset,
oui.
J'ai vu Sammy Davis Jr., Mireille Mathieu,
oui.
J'ai vu des très beaux concerts, et la scène est extraordinaire. C'est une scène magnifique, c'est une boîte toute rouge. Le Lido, c'est quand même un des plus beaux cabarets au monde, et je trouve que c'est très festif de passer cet anniversaire dans cet endroit, les Champs-Élysées, et d'après la direction, les girls, les filles, les Bubbles, annonceront ma venue en faisant un petit petite chorégraphie sur des medleys de mes chansons. Moi, je trouve ça très joli. C'est chou. Moi, je vais pas venir non plus. Moi, avec des plumes, il faut pas.
Non. Ce
que je veux dire. Je viens chanter mes anciennes chansons et quelques nouveautés. Et je pense que je finirai avec un très beau gospel. On fera Happy Day. Hein.
Bien, c'est évident.
Il y aura des surprises.
Il y aura
des surprises d'invités, voilà.
Alors, 50 ans de scène, ça se fête effectivement. Mais au départ, vous avez jamais pensé que ça pourrait durer 50 ans, Nicoletta.
Mais je sais même la première surprise. Moi, je me disais. Quand j'étais beaucoup plus jeune, oh bon, bah 50 ans, j'arrêterai, hein, c'est vieux quand même. Et j'ai dépassé les 50 ans il y a quelques moments.
Oui, quelques semaines.
Oui. Mais enfin, j'ai quand même là, je pense que vers 80 ans, je vais arrêter.
Oh, on dit ça.
Non, je vais arrêter parce que j'ai envie de profiter de mon lac Léman, de mes chèvres, des petites génisses, des animaux, les oiseaux, les fleurs de montagne, cette vie merveilleuse qu'ont les paysans là-haut, parce que j'y vais souvent, et l'été je suis beaucoup à l'alpage, cette espèce de vie tranquille mais forte en travail, attention, hein. Et cette vérité de vie m'intéresse, j'ai besoin peut-être aussi de poser mes valises, parce que Paris maintenant devient très fatigant, très anxiogène, et je pense de plus en plus à retrouver mes montagnes et mon lac.
Oui,
mais enfin bon, on a encore quelques années.
Oui, on a encore un peu de
temps. Si Dieu me prête vie et la santé.
Et pour l'instant, ça va plutôt bien. Et le Lido, vous parliez des concerts, mais il faut savoir que le Lido, le premier Lido à Paris, était aux Champs-Élysées au 78, et c'était une plage dans les années 30, la plage de Paris.
Oh, c'est drôle.
Et quand on va au sous-sol, mais ce qu'il en reste en tout cas, on voit encore des restes de la piscine et des cabines de bain de l'époque.
Parce que c'est drôle, je regarderai.
Mais c'est l'ancien Lido au 78.
Ah, c'est 78, ouais. Ce qui était le club 78.
Exactement. D'accord. Et avant, c'était le Lido.
D'accord.
Alors, finalement, en 50 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de légendes qui ont couru sur vous. Je me souviens, on vous appelait à un moment l'Albertine Sarrazin de la chanson.
Non, c'est un quiproquo. J'ai été demandée pour faire les essais pour tourner La Vie d'Albertine. Bon, je suis allée et on m'a appelé l'Albertine Sarrazin de la chanson. Pourquoi ? J'en sais rien. Parce que j'ai fait 6 mois chez les sœurs, au bon pasteur, qu'elle en avait fait aussi.
Oui.
Mais j'ai refusé le film. Je vais vous dire pourquoi. C'est Marlène Jobert qui l'a fait. J'ai reçu une lettre à l'époque du mari d'Albertine. Et c'est Albertine Sarrazin dont j'ai lu les 3 romans qui sont très touchants.
Dont l'Astragale.
Ah, l'Astragale, où quand elle s'enfuit, qu'elle se casse les talons. Bon. Cette femme a été spoliée sur ses droits. Et cet homme a envoyé une lettre très intelligente et très sentimentale et très attachante, me disant, par respect pour Albertine, je vous demande de ne pas faire ce film. Et il me donne la somme qu'elle a touchée, et c'était dérisoire. Ils l'ont vraiment eu, la pauvre chérie, et elle venait de mourir depuis quelque temps.
Elle était morte à 29 ans d'une opération.
Et des reins, voilà, ouais. Elle avait un truc rénal. Et je suis assez sentimentale, j'étais jeune à l'époque, et j'ai refusé le film. Par respect pour Albertine, et j'ai gardé la lettre de ce monsieur, Julien Sarrazin, dans le livre que j'ai toujours. J'ai acheté un gros livre où il y a les 3 romans. D'Albertine en souvenir.
Oui, pour celles et ceux qui l'ont oubliée, elle a vécu une vie difficile avec beaucoup de vols, elle a été en prison, son mari aussi, et puis elle s'est enfuie plusieurs fois et elle est morte effectivement à 29 ans d'une opération ratée.
Moi j'ai jamais été en prison et j'ai jamais fait de vol, j'ai fait des fugues, et mon juge de tutelle me foutait chez les sœurs en disant ça va la calmer.
Ouais, vous avez volé de l'argent à 14 ans à votre grand-mère pour acheter un soutien-gorge.
Oui, mais je l'ai rendu.
Bon.
Oh là là, j'ai été lui dire, la pauvre mamie, je sais pas quoi faire de la monnaie. Je me souviens de cette terreur. qu'est-ce que je fais de la monnaie ? Oui, j'avais des seins, ils m'appelaient Téton, mes copains. Mais oui, j'avais une forte poitrine. J'étais mince, mais que... j'étais nageuse. Et quand tu fais partie du club de natation et que tu plonges et que ton soutien-gorge pète et qu'on voit tes doudounes, ils m'appelaient Téton. Alors, j'étais pas très contente. Et j'étais machin soutien-gorge parce que ma mémé voulait que je reste une petite fille. Elle voulait pas mâcher de soutien-gorge. Et j'étais lui avoué quand même.
Oui, c'est
un beau moment qu'on a vécu toutes les deux. Parce qu'elle m'a dit, tu crois que je ne le sais pas ? J'attendais que tu viennes.
En 50 ans, vous avez vécu de très beaux moments et aussi des moments difficiles parce que vous êtes fait avoir plusieurs fois. C'est pas simple la vie d'une artiste qui, en plus, travaille en production, en autonomie.
Mmh. Bah, c'est-à-dire que, oui, on m'a annulé des tournées qui font que j'ai perdu 80 dates et je peux plus payer mes impôts, j'ai vendu ma maison. J'ai été éditeur de Feeling, la chanson qu'a repris Mike Brandt, je lui ai offert, j'ai ramené du Brésil. J'ai eu un procès. J'ai eu pas mal d'ennuis.
Oui.
Parce que je pense qu'une femme seule dans ce milieu, c'est marqué quand même proie. Hein. Proie et pigeon. Hein. Moi, je suis le genre, je cautionne un technicien qui achète un camion pour mettre ses éclairages dedans. Le môme, il part avec le camion, j'en vois plus au bout de 2 mois, je paye le camion, il n'y a plus de camion. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je me fais avoir.
Oui, mais en même temps, vous êtes une femme de caractère. Un soir, au Sporting de Monaco, Nicoletta, les gens en parlaient dans la salle
ouais.
Et vous vous êtes pas laissé faire.
Ah oui, 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 moi, mais il dit, attends, je suis en train de chanter, j'entends parler, passez-moi le sel, de ci, machin, tout. Tous ces chicos, parce que c'était quand même le monde entier qui était là. À un moment donné, j'ai dit aux musiciens, basta, doucement.
Et finalement...
J'ai mis mes deux mains sur les hanches, j'ai attendu un bon moment, la tête penchée. Alors, ils n'entendaient plus rien, ni musique, ils ont commencé à regarder ce qui se passait. Eh bien oui, il y a une chanteuse, elle est là, et c'est son métier, et elle chante, et vous parlez tellement fort que j'entends plus ce que je fais. Ils m'ont tous jeté des fleurs et fait un triomphe, comme quoi il faut les malmener de temps en temps.
Et le prince régné, vous avez approuvé à l'époque. Hein.
Bien sûr, il était le premier à applaudir.
Alors, en 50 ans de carrière, vous avez aussi lancé des modes, et cette chanson en est un symbole, Nicoletta. Car finalement, la chanson brésilienne, quand vous avez amené Fio Maravilha en France, bah, personne ne connaissait.
Non. Et pour cause, il venait de la composer, le compositeur Jorge Ben.
Oui.
Mais c'est vrai que Barclay, quand je lui ai dit, bon, je mets ça dans mon album, il me dit, mais ça va pas, le Brésil, ça marche pas du tout. J'ai tout essayé. Je veux carnaval chaque année. J'adore ça. Je m'occupe de Baden-Baden. J'ai plein de musiciens. Ça marche pas. Maria Bethania, ça marche pas. Mais là, dans l'album, je veux pas en entendre parler. Tu parles, tu es obligé de faire un simple. Ça a beaucoup plu aux radios. Et c'est vrai que le texte de Boris Gberman swingait merveilleusement bien. Il écrit très bien, Boris. Il a bien fait des petites onomatopées avec des consonnes d'attaque qui faisaient bien sur le tempo bossa nova. Et on l'a bien réussi. Voilà.
Il y a quelqu'un en France.
Et c'est vrai qu'après, c'était une vague.
Oui.
Hein, ça a
curieux,
ouvert
hein.
Les portes. Comme j'ai ouvert la porte pour le gospel.
Oui. Mais il y a quelqu'un aussi qui ne connaissait pas Georges Ben en France, c'est Guy Lux.
Oh, que c'est drôle, ça. Oh, oui, Georges vient pour faire Guy Lux. Parce que ça, il a fait un pot pourri qui a très bien marché, un medley, vous vous rappelez, qui a fait le tour du monde. Et Guy dit, bon et maintenant, Georges et Ben. Et Georges s'installe avec ses musiciens. Et il est où ? Il est où ? Qui ? Ben, il est où Ben ? Mais non, c'est Georges Ben. Ça c'était Guy, on l'adorait pour ça aussi. Il était incroyable.
Et puis, il faut savoir quand même que le Brésil, en 1940, quelqu'un a entendu des rythmes brésiliens et a fait au retour de la guerre la première samba brésilienne.
Aïe, 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 Maria de Bahia, qui menait le bal au carnaval.
Maria de Bahia par Reventura, si j'en parle.
Eh ben dis donc, oui, comment il s'appelle ?
C'était Paul Misraki.
Qui était le compositeur.
Compositeur d'une autre chanson qui
dont
vous
concerne.
Dont j'ai
fait un tube, Les Volets Clos.
Les Volets Clos.
Tout à fait.
Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Tant pis pour le patron. Mes yeux dans tes yeux.
C'était un génie, Misraki, d'ailleurs.
Quelle classe il avait. Je le vois rêver chez moi. Élégantissime. Un petit costume 3 pièces. Un petit nœud papillon, plein après-midi. Impeccable. Chicos. Formidable. D'une gentillesse.
Et il avait écrit une chanson, Tout va très bien, Madame la Marquise.
Oui.
Et il a compris que cette chanson avait du succès qu'un jour, en voiture, il a entendu un petit télégraphiste à côté siffler la chanson sur son vélo.
Eh ben voilà. Vous voyez que c'est comme moi. Dès qu'on est sifflé sur un vélo, il n'y a plus de soucis.
Alors, le cinéma, justement, il y a eu quelques expériences, et notamment Un aller simple.
Ça a été avec un film de José Giovanni, oui. J'ai bien aimé cette expérience, c'était très intéressant.
Mais vous auriez
c'était
pu
un film contre la peine de mort. On l'a tourné en Belgique, parce qu'elle était encore là, à l'époque, la peine de mort en France. Et j'avais le rôle d'une petite complice de vol de bijoux, évidemment. On est sur des rôles un petit peu de voyoute. Mais j'ai bien aimé, parce que José Giovanni était un homme vraiment intéressant. Et il y avait une équipe d'acteurs extraordinaires. Ottavia Piccolo, Giancarlo Giannini, Roger, comment il s'appelle, Garel, il y avait Maurice Garel. Il y avait des gens incroyables, des grands acteurs qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai refait ensuite une autre expérience pour La Une avec Raymond Pellegrin, qui est un grand acteur aussi. J'ai fait le rôle criminel, Le Manoir des Veuves, pour TF1, un téléfilm, il y a quelques années. Et là, il y a 2 ans, j'ai refait une expérience, rôle d'une mère complètement traumatisée, qui garde un secret pendant 30 ans. Elle sait que c'est son fils qui est criminel, et elle le garde pour elle. Et j'ai travaillé avec Le Bihan, qui est un acteur formidable, qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'aime bien aussi être au cinéma, être actrice.
Et puis un jour, vous êtes au Flore, je crois, à Saint-Germain-des-Prés, il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule, il vous retournez, et c'est Alain Delon.
Oui, c'est pas au Flore, c'est au Bistingo.
Oui,
c'est au Bistingo, c'est tout à côté. Oui. C'est Alain, oui, pour me féliciter, me dire que j'étais sympa et tout,
ça
parce qu'il est un artiste Barclay.
Oui.
Ah ben oui. Oh ben oui. Moi, j'étais pas contente parce qu'elle avait trempé son croissant dans mon café.
Oui.
Et je lui tournais le dos. Je me disais, c'est un imbécile qui me fait que se mettre son croissant dans mon café. Et c'était Monsieur Delon. Et j'ai enregistré sa chanson du générique, Jeff.
Exactement.
Cet ami, ce frère.
Cette chanson vous a valu d'ailleurs une engueulade d'Alain Delon parce que vous n'étiez pas arrivé à l'heure.
Oh là là. Mais il m'a appris une chose, et il avait raison. Je suis venu un quart d'heure en retard, j'ai pas de permis, alors moi, pour trouver des taxis et tout. Et je suis arrivé un quart d'heure. Il m'a dit, ça c'est une chose. Si tu veux durer sans ce métier, et devenir une star, t'as intérêt à être à l'heure. Bon, très bien. Et puis voilà, et il avait raison.
Il avait raison. Il y aura des gospels, mais il y aura aussi quelques-uns des classiques que vous avez enregistrés avec succès pendant ces 50 ans de carrière, ces premières 50 années de carrière, Nicoletta. Je rappelle que c'est au Lido, le 4 novembre et le 7 novembre 2021. 2 soirées exceptionnelles à ne pas manquer. Votre grand-mère y avait pensé un jour.
J'ai fait, sur une grande radio périphérique, une messe de minuit aux entrepôts Calberson, dans une émission qui était pour les routiers. Tous les routiers sont venus avec leurs camions enguirlandés comme des arbres de Noël. C'était magnifique sur les périphériques. C'était en 76. Et je venais d'enregistrer Glory Alléluia. Glory, Glory, Alléluia. Où je chantais la naissance de Jésus. Gospel veut dire évangile. Et tous les textes sont pris dans le Nouveau Testament. Et donc, le curé vient me voir, on speech la messe, je chante Silhouette to Jesus, 2-3 gospels, etc. Une chorale d'enfants, c'était magnifique, 20 000 personnes, ça tombait comme des mouches, heureusement il y avait la Croix-Rouge. Un souvenir incroyable. Et la radio en question l'a retransmis, ma grand-mère, elle a écouté depuis chez elle en Haute-Savoie. Et je lui envoie mon nouveau disque quelques temps plus tard. Elle me dit, ouais, c'est bien, ouais, bah, c'est joli quand tu chantes. Mais ça fait rien quand même. Quand tu chantes le gospel, c'est tellement plus beau. Et quand j'ai eu ce moment d'hésitation il y a quelques années, vers la cinquantaine, où tu te dis, je fais quoi là? Je vais à la retraite ou quoi? Je suis du déjà vu, du déjà entendu. C'est difficile de trouver des chansons. Je piétine. Quel défi je peux me donner? Je me suis souvenu de cette phrase de ma grand-mère. J'ai appelé une amie américaine, j'ai dit, est-ce que tu connais un chef de chœur ou une chef de chœur pour que je travaille le gospel? Elle m'a donné un atelier, j'ai travaillé comme une folle pendant des semaines, j'irai ensuite avec une chorale, j'irai avec le pianiste à la maison, et je suis partie faire l'aventure à travers les églises, voilà.
Résultat, 1 million de spectateurs qui ont tous repris en chœur cette chanson.
Happy day, oh, happy day.
car ça, c'est le classique des classiques.
Oh ben, Happy Day, oui, oui.
Et ce sera au programme du Lido, je pense.
Bien sûr. Oui, oui, ce sera, je pense que je ferai un final. J'inviterai une petite chorale gospel pour finir.
Alors, ce spectacle, c'est le 3.
Mais c'est de la variété que je vais faire, c'est pas du gospel.
On est bien d'accord, mais voilà. Ce sera dans ce florilège de chansons que nous avons évoquées.
Voilà.
Je précise qu'avant ce Lido, le 18 novembre, vous êtes à Périgueux, le 19 à Montauban, le 20 novembre à Albi, ensuite à Villefranche-de-Rouergue, et qu'il y aura d'autres dates aussi en
dans
décembre.
Dans l'Est, ce serait l'Alsace.
Strasbourg, Metz, Sarreguemines, voilà, et Épernay. Et le 3 et 4 février au Lido.
Et je remercie les maires du Sud-Ouest, surtout celles de Périgueux. Ils ont été formidables quand ils ont vu qu'on venait. Nous sommes vraiment... mon mari a la licence, il ouvre la billetterie, il loue les lieux. Eh bien, ils nous ont offert la communication gratuitement, tellement ils sont contents que les artistes reviennent en concert.
Et vous, vous revenez quand vous voulez au micro de Sud Radio.
Mais c'était un ravissement de parler de tout ça avec vous, mon cher Jacques, que je n'ai pas vu depuis longtemps, et ça me fait très plaisir de vous avoir retrouvé.
Et moi aussi, et puis donc, j'espère que les auditeurs ont partagé ce plaisir, j'en suis même certain. C'est fini, les clés d'une vie pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, et en attendant, restez fidèles à l'écoute de... Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicoletta, 4 novembre 2021, et puis le 7 novembre aussi, deux concerts exceptionnels au Lido pour fêter vos 50 ans de carrière. Le Lido, c'est quand même un lieu inattendu pour chanter, Nicoletta.
Si, le Lido a fait souvent des concerts, mais avait arrêté depuis une trentaine d'années.
Et pour l'instant, ça va plutôt bien. Et le Lido, vous parliez des concerts, mais il faut savoir que le Lido, le premier Lido à Paris, était aux Champs-Élysées au 78, et c'était une plage dans les années 30, la plage de Paris.
Oh, c'est drôle.
Et quand on va au sous-sol, ce qu'il en reste en tout cas, on voit encore des restes de la piscine et des cabines de bain de l'époque.
Parce que c'est drôle, je regarderai.
Mais c'est l'ancien Lido au 78.
Ah, c'est 78, oui. Qui était le club 78.
Exactement, d'accord. Et avant c'était le Lido.
D'accord.
Alors, finalement, en 50 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a beaucoup de légendes qui ont couru sur vous. Je me souviens, on vous appelait à un moment l'Albertine Sarrazin de la chanson.
Non, c'est un quiproquo. J'ai été demandé pour faire les essais, pour tourner la vie d'Albertine. Bon, je suis allé, et on m'a appelé l'Albertine Sarrazin de la chanson. Pourquoi ? J'en sais rien. Parce que j'ai fait 6 mois chez les sœurs, ou mon pasteur, qu'elle en avait fait aussi.
Oui.
Mais, j'ai refusé le film. Je vais vous dire pourquoi. C'est Marlène Jobert qui l'a fait. J'ai reçu une lettre à l'époque du mari d'Albertine. Et c'est Albertine Sarrazin dont j'ai lu les trois romans qui sont très touchants.
Dont l'Astragale.
Ah, l'Astragale, où quand elle s'enfuit, qu'elle se casse les talons. Bon. Et cette femme a été spoliée sur ses droits. Et cet homme a eu une lettre très intelligente et très sentimentale et très attachante, me disant, par respect pour Albertine, je vous demande de ne pas faire ce film. Et il me donne la somme qu'elle a touchée, et c'était dérisoire. Ils l'ont vraiment eu, la pauvre chérie, et elle venait de mourir depuis quelque temps.
Elle était morte à 29 ans d'une opération rénale.
Des reins, voilà, ouais. Elle avait un truc rénal. Et je suis assez sentimentale, j'étais jeune à l'époque, et j'ai refusé le film. Par respect pour Albertine, et j'ai gardé la lettre de ce monsieur, Julien Sarrazin, dans le livre que j'ai toujours. J'ai acheté un gros livre où il y a les trois romans. D'Albertine, en souvenir.
En 50 ans de carrière, vous avez aussi lancé des modes, et cette chanson en est un symbole, Nicoletta.
Fio Maraviglia, ton père c'était le soleil.
Car finalement, la chanson brésilienne, quand vous avez amené Fio Maraviglia en France, personne ne connaissait.
Non. Et pour cause, il venait de la composer, le compositeur George Ben.
Oui.
Mais c'est vrai que Barclay, quand je lui ai dit, bon, je mets ça dans mon album, il me dit, mais ça va pas, le Brésil, ça marche pas du tout. J'ai tout essayé, je vais au carnaval chaque année, j'adore ça. Je m'occupe de Baden-Baden, j'ai plein de musiciens, ça marche pas. Maria Bethania, ça marche pas. Mais là, dans l'album, je vais pas en entendre parler. Tu parles, tu es obligé de faire un simple, ça a beaucoup plu aux radios. Et c'est vrai que le texte de Boris Gberman swingait merveilleusement bien, il écrit très bien, Boris. Il a bien fait des petites onomatopées avec des consonnes d'attaque qui faisaient bien sur le tempo bossa nova. Et on l'a bien réussi, voilà.
Il y a quelqu'un en France.
Et c'est vrai qu'après, c'était une vague.
Oui.
Hein, ça a ouvert les portes. Comme j'ai ouvert la porte pour le gospel.
Oui. Mais il y a quelqu'un aussi qui ne connaissait pas Georges Ben en France, c'est Guy Lux.
Oh, que c'est drôle, ça. Oh, oui, Bichard, je viens pour faire Guy Lux, parce qu'il a fait un pot-pourri qui a très bien marché, un medley, vous rappelez, qui a fait le tour du monde. Et Guy dit, bon, et maintenant, Georges et Ben. Et Georges s'installe avec ses musiciens. Et il est où? Il est où? Qui? Ben, il est où Ben? Mais non, c'est Georges Ben. Ça, c'était Guy, on l'adorait pour ça aussi. C'était, il était incroyable. Il était incroyable.
Et puis, il faut savoir quand même que le Brésil, en 1940, quelqu'un a entendu des rythmes brésiliens et a fait au retour de la guerre la première samba brésilienne.
Aïe, 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 Maria, Maria de Bahia, qui menait le bal au carnaval.
Maria de Bahia par Reventura, si j'en parle.
Eh ben dis donc, c'est que... Oui, comment il s'appelle?
C'était Paul Misraki.
Mais qui a... oui, qui était le compositeur.
Compositeur d'une autre chanson qui
dont
vous
j'ai
concerne.
Fait un tube, Les Volets Clos.
Les Volets Clos.
Tout à fait.
Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Tant pis pour le patron. Mes yeux dans tes yeux, si bleus.
C'était un génie, Misraki, d'ailleurs.
Quelle classe il avait. Je le vois rêver chez moi. Élégantissime. Un petit costume trois pièces. Un petit nœud papillon. Plein après-midi. Impeccable. Chicos. Formidable. D'une gentillesse.
Et il avait écrit une chanson « Tout va très bien, Madame la Marquise ».
Oui.
Et il a compris que cette chanson avait du succès qu'un jour, en voiture, il a entendu un petit télégraphiste à côté siffler la chanson sur son vélo.
Eh ben voilà. Vous voyez que c'est comme moi. Alors, dès qu'on est sifflé sur un vélo, il n'y a plus de soucis.
Alors, le cinéma, justement, il y a eu quelques expériences, et notamment Un aller simple.
Mm-hmm. Ça a été avec un film de José Giovanni, oui. J'ai bien aimé cette expérience, c'était très intéressant.
Mais vous
c'était un film contre la peine de mort. On l'a tourné en Belgique, parce qu'elle était encore là, à l'époque, la peine de mort en France. Et j'avais le rôle d'une petite complice de vol de bijoux, évidemment. On est sur des rôles un petit peu de voyoutes. Mais j'ai bien aimé, parce que José Giovanni était un homme vraiment intéressant. Et il y avait une équipe d'acteurs extraordinaires. Ottavia Piccolo, Giancarlo Giannini, Roger, comment il s'appelle, Garel, il y avait Maurice Garel. Il y avait des gens incroyables, des grands acteurs qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai refait ensuite une autre expérience pour La Une, avec Raymond Pellegrin, qui est un grand acteur aussi. J'ai fait le rôle criminel, là, le Manoir des Veuves, pour TF1, un téléfilm, il y a quelques années. Et là, il y a 2 ans, j'ai refait une expérience, rôle d'une mère complètement traumatisée, qui garde un secret pendant 30 ans. Elle sait que c'est son fils qui est criminel, et elle le garde pour elle. Et j'ai travaillé avec Le Bihan, qui est un acteur formidable, qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'aime bien aussi oui. être au cinéma, être oui. actrice.
Et puis un jour, vous êtes au Flore, je crois, à Saint-Germain-des-Prés, il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule, il vous retournez et c'est Alain Delon.
Oui, c'est pas au Flore, c'est au Bistingo.
Oui,
c'est au Bistingo, c'est tout à côté. Oui. C'est Alain, oui. Oui, pour me féliciter, me dire que j'étais sympa et tout,
ça
parce qu'il est un artiste Barclay.
Oui.
Ah ben oui. Oh ben oui. Moi, j'étais pas contente parce qu'elle avait trempé son croissant dans mon café.
Oui.
Et je lui tournais le dos. Je lui dis, c'est un imbécile qui me fait se mettre son croissant dans mon café. Et c'était Monsieur Delon. Et j'ai enregistré sa chanson du générique, Jeff.
Exactement.
Cet ami, ce frère, m'avait donné le monde.
Et cette chanson vous a valu d'ailleurs une engueulade d'Alain Delon parce que vous n'étiez pas arrivé à l'heure.
Oh là là. Mais il m'a appris une chose, et il avait raison. Je suis venu un quart d'heure en retard, j'ai pas de permis, alors moi, pour trouver des taxis et tout. Et je suis arrivé un quart d'heure, il m'a dit, ça c'est une chose, si tu veux durer sans ce métier, et devenir une star, t'as intérêt à être à l'heure. Bon, très bien. Et puis voilà, et il avait raison.
Il y aura des gospels, mais il y aura aussi quelques-uns des classiques que vous avez enregistrés avec succès pendant ses 50 ans de carrière, ses premières 50 années de carrière, Nicoletta, je rappelle que c'est au Lido, le 4 novembre et le 7 novembre 2021, 2 soirées exceptionnelles à ne pas manquer. Votre grand-mère y avait pensé un jour.
J'ai fait sur une grande radio périphérique une messe de minuit aux entrepôts Calberson, dans une émission qui était pour les routiers. Tous les routiers sont venus avec leurs camions enguirlandés comme des arbres de Noël. C'était magnifique sur les périphériques. C'était en 76. Et je n'ai d'enregistré Glory Alléluia. Glory, Glory, Alléluia. Où je chantais la naissance de Jésus. Gospel veut dire évangile. Et tous les textes sont pris dans le Nouveau Testament. Et donc, le curé vient me voir. On speech la messe. Je chante Silhouette to Jesus, 2-3 gospels, etc. Une chorale d'enfants. C'était magnifique. 20 000 personnes. Ça tombait comme des mouches. Heureusement, il y avait la Croix-Rouge. Un souvenir incroyable. Et la radio en question... l'a retransmis, ma grand-mère, elle a écouté depuis chez elle en Haute-Savoie. Et je lui envoie mon nouveau disque quelques temps plus tard. Elle me dit, ouais, c'est bien, ouais, bah, c'est joli quand tu chantes. Mais ça fait rien quand même. Quand tu chantes le gospel, c'est tellement plus beau. Et quand j'ai eu ce moment d'hésitation vers la, il y a quelques années, vers la cinquantaine, où tu te dis, je fais quoi là? Je vais à la retraite ou quoi? Je suis du déjà vu, du déjà entendu, c'est difficile de trouver des chansons, je piétine. Quel défi je peux me donner? Je me suis souvenu de cette phrase de ma grand-mère. J'ai appelé une amie américaine, j'ai dit, est-ce que tu connais un chef de chœur ou une chef de chœur pour que je travaille le gospel? Elle m'a donné un atelier, j'ai travaillé comme une folle pendant des semaines, j'irai ensuite avec une chorale, j'irai avec le pianiste à la maison, et je suis partie faire l'aventure à travers les églises, voilà. Et
résultat, 1 million de spectateurs qui ont tous repris en chœur cette chanson.
Happy day.
Car ça, c'est le classique des classiques.
Oh ben, Happy Day, oui. Oui.
Et ce sera au programme du Lido, je pense.
Bien sûr. Oui, oui, ce sera, je pense que je ferai un final. J'inviterai une chorale gospel pour finir.
Alors, ce spectacle, c'est le 3.
Mais c'est de la variété que je vais faire, c'est pas du gospel.
On est bien d'accord, mais voilà. Ce sera dans ce florilège de chansons que nous avons évoqué.
Voilà.
Je précise qu'avant ce Lido, le 18 novembre, vous êtes à Périgueux, le 19 à Montauban, le 20 novembre à Albi, ensuite à Villefranche-de-Rouergue, et qu'il y aura d'autres dates aussi en
dans
décembre.
Dans l'Est, ce serait l'Alsace.
Strasbourg, Metz, Sarreguemines, voilà, et Épernay. Et le 3 et 4 février au Lido.
Et je remercie les maires du Sud-Ouest, surtout celles de Périgueux. Ils ont été formidables quand ils ont vu qu'on venait. Nous sommes vraiment... mon mari a la licence, il ouvre la billetterie, il loue les lieux. Eh bien, ils nous ont offert la communication gratuitement, tellement ils sont contents que les artistes reviennent en concert.
Et vous revenez quand vous voulez au micro de Sud Radio.
Mais c'était un ravissement de parler de tout ça avec vous. Mon cher Jacques, que je n'ai pas vu depuis longtemps, et ça me fait très plaisir de vous avoir retrouvé.
Et moi aussi, et puis donc, j'espère que les auditeurs ont partagé ce plaisir, j'en suis même certain. C'est fini, les clés d'une vie pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, et en attendant, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.
À bientôt, merci.